Chapitre 22. Une lettre. Oscar ne se doutant guère de l'orage qui venait si innocemment de soulever dans le cœur de Lucille, nous suivait, la lettre de son frère à la main, tandis que nous rentrions sous l'escorte du recteur. En jugé à certains signes, le recteur voyait dans tout cela non seulement l'arrivée d'un frère jumeau d'Oscar, mais surtout l'arrivée d'une fortune jumelle, les deux frères ayant touché chacun la moitié de l'héritage paternel. En un mot, pour la seconde fois, M. Finch flairait de l'argent. « Calmez-vous, de grâce, » dis-je tout bas à Lucille, quand les deux hommes nous suivirent dans le boudoir. « Votre jalousie est puérile, et il y a assez de place dans le cœur d'Oscar pour son frère et pour vous. » Elle ne fit que répéter en me serrant le bras. « Son frère, je le hais !»« Venez vous asseoir près de moi, » lui dit Oscar. « Je voudrais lire tout au long la lettre de De Ghent. » « Si vous saviez comme elle est intéressante, ah, il y a quelque chose pour vous. » En disant ces mots, le jeune homme, trop absorbé dans sa joie pour remarquer l'espèce de soumission farouche avec laquelle elle l'écoutait, la fit asseoir à côté de lui et commença sa lecture. De Ghent me parle dans les premières lignes de son retour en Angleterre et aussi de la bonne idée qu'il a eue de venir demeurer avec moi au sable. Puis il continue ainsi. J'ai trouvé toutes les lettres que tu m'as écrites. Elles m'attendaient à New York. Inutile de te dire, mon bon frère. » Lucille interrompit sa lecture et se leva brusquement. « Qu'avez-vous ? » lui demanda Oscar. « Cette chaise n'est pas commode. » Oscar courut lui chercher un fauteuil et reprit sa lecture. « Inutile de te dire, mon bon frère, combien tu m'as intéressé en m'annonçant ton prochain mariage. » Tu sais que ton bonheur et le mien ne font qu'un. C'est pour cela que je me sens aussi heureux que toi et que je te félicite de tout mon cœur. Je brûle déjà du désir de voir ma future belle-sœur. » Lucille se leva de nouveau et Oscar, tout étonné, lui en demanda la raison. « Je ne me sens pas à mon aise ici, » répondit-elle en s'éloignant et allant s'asseoir plus loin. Oscar la suivit patiemment, sa précieuse lettre en main. Pour la troisième fois, il lui offrit une chaise qu'elle refusa avec vivacité en en choisissant une elle-même. Il reprit la lecture de la lettre. « La cécité de ta fiancée m'attriste et m'intéresse. Tandis que je lisais ta dernière lettre, mes croquis américains étaient éparpillés tout autour de moi. Hélas, me suis-je dit, en apprenant qu'elle était aveugle, ma belle-sœur ne pourra jamais les voir. » Tu sais, mon cher Oscar, qu'un vrai artiste pense toujours à ses œuvres, et je puis t'assurer que je rapporte avec moi des études très remarquables et qui me seront d'une grande utilité pour mes futurs tableaux. Elles ne sont peut-être pas aussi nombreuses que tu t'y attendais, mais j'aime mieux me fier au sentiment du beau inné en moi qu'à une copie laborieuse et servile de la nature qui, je te l'avouerai, pour parler en artiste, me contrarie quand je me trouve dans certaines dispositions d'esprit. » Oscar s'arrêta pour s'adresser à moi. « Hein ? Quel style, Madame Pratolung ? Ne vous ai-je pas toujours dit que De Ghent était un grand esprit ? Ne vous en allez pas encore, Lucille, je reprends. Il y a pour vous un post-scriptum qui est fort élégamment tourné. » Lucille voulut absolument se lever malgré l'annonce du post-scriptum. Elle alla à la fenêtre et se mit à effeuiller ses fleurs, si bien qu'Oscar nous regarda, le recteur et moi, avec un vague étonnement. M. Finch, qui avait jusque-là tout écouté, avec la respectueuse déférence due à la correspondance de deux jeunes rentiers, intervint auprès de sa fille pour qu'elle écoutât jusqu'au bout. « Je t'en prie, ma chère Lucille, » s'écria-t-il, « ne t'agite pas tant. Tu gâtes tout le plaisir que nous prenons à entendre cette intéressante lecture. » « Je voudrais te voir, mon enfant, changer moins souvent de place et prêter plus d'attention. »« Ce que lit Oscar ne m'intéresse nullement. » En faisant cette réponse peu gracieuse, elle renversa un pot de fleurs. Oscar, sans perdre un instant sa bonne humeur, le releva. « Cela ne vous intéresse pas ? Attendez un peu. Vous ne savez pas encore ce que De Ghent dit de vous. Tenez. » Mes meilleurs compliments à ta fiancée et dis-lui, mon cher Oscar, que l'intérêt que je ressens pour elle me fait hâter mon départ pour l'Angleterre. Est-ce bien tourné, hein ? Allons, Lucille, avouez que Nugent vaut la peine d'être lu quand il parle de vous dans ses lettres. » Lucille se tourna pour la première fois vers Oscar. Le charme de l'accent avec lequel il prononça ces paroles l'avait vaincue malgré elle. « J'en suis reconnaissante à votre frère, » répondit-elle avec douceur, « et je suis honteuse de ce que je viens de dire. » Elle glissa sa main dans celle d'Oscar et lui dit tout bas, « Vous l'aimez tant que je commence à craindre que votre frère n'accapare tout votre amour à mon détriment. Attendez que vous l'ayez vu et vous l'aimerez tout autant que je l'aime, » lui répondit Oscar. « Il ne me ressemble pas et il a le don de fasciner les gens à première vue. Personne ne saurait lui résister. » Lucille, dont le visage exprimait la tristesse et la perplexité, tenait toujours sa main. Cette absence de toute jalousie de sa part, sa confiance généreuse et illimitée dans l'amour qu'elle avait pour lui, c'était bien là le reproche qui pouvait le mieux la toucher et que, selon moi, elle avait mérité. « Allons, Oscar, » dit le recteur de sa voix la plus encourageante. « Continuez, mon cher, continuez. » « Je passe, » répondit Oscar, « à une autre nouvelle très intéressante et assez mystérieuse pour exciter notre curiosité. Nugent me dit, « J'ai fait ici, à New York, la connaissance d'un homme remarquable, un Allemand, qui a gagné beaucoup d'argent aux États-Unis. Il se propose de visiter l'Angleterre dans les premiers jours de l'année et il m'avertira de son arrivée. J'aurai l'honneur de te le présenter moi-même, à toi et à ta fiancée. Il se pourrait que tu te félicitasses par la suite d'avoir fait sa connaissance. Je ne veux plus t'en parler que lorsque nous serons au sable. » Il se pourrait bien que tu te félicitasses par la suite d'avoir fait sa connaissance, répéta Oscar en pliant la lettre de son frère. Nugent ne me dirait pas cela s'il n'avait pas quelque raison sérieuse. Qui peut être cet Allemand dont il parle ? M. Finch releva vivement la tête et regarda Oscar d'un air inquiet. « Votre frère dit que ce monsieur a fait fortune en Amérique. J'espère que ce n'est pas un de ces financiers infestés de cet esprit d'aventureuse spéculation qui sont la plaie de l'Amérique. Votre frère, qui sans doute est aussi généreux que vous... »« Il est beaucoup plus généreux que moi, Monsieur Finch, » dit Oscar en coupant la parole au recteur. « Et favorisé comme vous par la fortune, » reprit le recteur, s'enthousiasmant à mesure qu'il parlait. « Je ne le suis plus, » dit Oscar, « la volage m'a abandonné. »« Quoi ?» s'écria M. Finch en faisant un soubresaut. « Nugent a gaspillé sa fortune, » reprit Oscar avec une parfaite tranquillité. « Je lui ai prêté l'argent qu'il lui fallait pour partir en Amérique. Mon frère est un homme de génie, M. Finch. » « Avez-vous jamais entendu dire qu'un homme de génie puisse se restreindre à de certaines limites ?»« Nugent ne pourrait mener une vie simple comme la mienne. Il a des goûts princiers. L'argent n'est rien pour lui. Mais qu'importe, il va bien vite refaire sa fortune avec ses tableaux et, en attendant, je puis bien lui ouvrir ma bourse. » M. Finch se leva, de l'air d'un homme dont l'attente a été cruellement déçue et dont l'innocente confiance a été trahie d'une façon indigne. Quel avenir se déroulait à ses yeux! Un homme aussi besogneux que lui allait s'établir à l'ombre du presbytère, il emprunterait de l'argent à Oscar, et cet homme était son frère. Il m'est impossible de voir du même œil que vous l'extravagance de votre frère, dit le recteur, la main sur le bouton de la porte. Et s'adressant à Oscar du ton le plus sévère, « Je déplore et je blâme le mauvais usage qu'a fait M. Nugent des dons que lui avait accordés la Providence dans sa haute sagesse. Vous ferez bien de réfléchir avant d'encourager l'extravagance de votre frère en lui prêtant de l'argent. Que dit le grand poète de l'humanité au sujet de ceux qui prêtent ? Le barde d'Avon nous dit « Un prêt perd souvent » et celui qui l'accorde, et celui qui le reçoit. Que cette parole reste gravée dans votre mémoire, Oscar. Défie-toi, Lucille, de cette agitation que j'ai déjà dû blâmer. Il faut que je vous quitte, Madame Pratolungo. J'avais oublié mes devoirs de pasteur. Mes devoirs m'appellent. Bonjour, bonjour. Il nous regarda tous trois l'un après l'autre avec des yeux moroses et sortit. Certes, dis-je en moi-même, voilà un triste début pour le frère d'Oscar. Il a tout d'abord porté ombrage à la fille et voici qu'il vient d'offenser le père. Même au-delà des mères, M. Nguyen-Dubourg exerce une influence pernicieuse et trouble le repos de la famille avant d'avoir montré seulement le bout de son nez. Il n'arriva rien dans la journée digne d'être relatée. La soirée fut assez triste. Lucile était abattue. Quant à moi, je n'avais pas encore eu le temps de m'habituer au pénible spectacle du visage d'Oscar. J'étais grave et silencieuse. On ne m'aurait jamais prise pour une Française si on m'avait vue pour la première fois au moment de mon retour au presbytère. Le lendemain amena un petit événement domestique qui doit trouver place ici. Notre médecin, toujours mécontent de sa position dans cette obscure campagne, avait obtenu aux Indes une place qui offrait de grands avantages à un ambitieux. Il vint nous dire adieu avant son départ. Je saisis l'occasion qui se présentait de lui parler d'Oscar. Il convint avec moi qu'il serait simplement absurde de laisser ignorer à Lucile le changement qui s'était produit chez son ancien malade. « Elle apprendra la vérité, dit-il, avant peu de jours. » Après cette prédiction qu'il me fit en secret, il nous quitta. Sa disparition, je vous prie de le remarquer, était celle d'un témoin important quant au traitement qu'avait suivi Oscar, et elle pouvait exercer une certaine influence dans la suite. Je dois donc la signaler. 2 jours passèrent. Dans la matinée du 3e, la prédiction du docteur faillit se réaliser grâce à la bohémienne de la famille, l'amusante petite Jix. Je me promenais dans le jardin avec Lucile et Oscar. L'enfant sortit tout à coup de derrière un arbre et, saisissant Oscar par les jambes, elle lui souhaita affectueusement le bonjour en l'appelant bruyamment l'homme bleu. Aussitôt, Lucile s'arrêta et dit « Qui appelles-tu l'homme bleu ?»« Oscar !» répondit hardiment Jix. Lucile prit l'enfant dans ses bras. « Pourquoi appelles-tu Oscar l'homme bleu ?» lui demanda-t-elle. Jix montra la figure d'Oscar. Puis, se rappelant la cécité de Lucile, elle eut recours à moi. « Dites-le-lui » fit-elle gaiement. Oscar me prit la main en m'implorant du regard. Je résolus de m'abstenir. C'était bien assez de rester passive et de lui laisser ignorer la vérité. Je ne voulais en aucune façon contribuer à la tromper. Le sang lui monta au visage. Elle mit l'enfant à terre. « Êtes-vous muets tous deux » dit-elle. « Oscar, répondez, je le veux. Pourquoi vous a-t-on donné ce sobriquet d'homme bleu ?» Dans sa détresse, Oscar eut recours à un mensonge et, qui pisait, à un mensonge maladroit. Il se mit à raconter, à mon grand mécontentement, qu'on lui avait donné ce sobriquet dans la chambre des enfants pendant le voyage de Lucile à Londres parce qu'un jour, il s'était peint la figure pour jouer barbe bleue pour amuser les enfants. Si Lucile avait soupçonné tant soit peu la vérité, elle l'eût découverte à ce moment malgré sa cécité. Dans tous les cas, Oscar la contrariait et l'irritait. Je m'aperçus qu'elle s'efforçait de chasser comme une sorte de sentiment de mépris pour lui. « Une autre fois, amusez les enfants d'une autre façon, dit-elle. Quoique je ne puisse vous voir, je n'aime pas que vous vous défiguriez. » Elle s'écarta pour continuer seule sa promenade. Son fiancé venait évidemment de s'amoindrir dans son esprit. Il me jeta de nouveau un regard suppliant. « Avez-vous entendu ce qu'elle a dit ?» me dit-il tout bas. « Vous venez de perdre une excellente occasion de dire la vérité, » lui répondis-je. « Je suis convaincu que vous regretterez amèrement de l'avoir trompée aussi cruellement. » Il secoua la tête avec l'opiniâtreté d'un homme faible. « Ce n'est pas l'opinion de Nugent, » dit-il en me tendant la lettre. « Lisez le passage, à présent que Lucile ne peut nous entendre. » Je ne pus lire tout d'abord. La ressemblance entre les jumeaux s'étendait même jusqu'à leur écriture. Si j'avais trouvé la lettre, je l'aurais rendue à Oscar comme étant de son écriture. Le paragraphe qu'il indiquait ne contenait que ces lignes. « Ta dernière lettre a dissipé mes inquiétudes au sujet de ta santé. Je conviens avec toi que tout sacrifice qui amènera ta guérison sera un sacrifice nécessaire. Quant à cacher à ta fiancée ses résultats, je te ferai observer seulement que tu dois savoir mieux que moi ce que tu as à faire en cette occasion. Je m'abstiendrai donc de te donner mon opinion avant de t'avoir vu. » Je rendis la lettre à Oscar. « Je n'y trouve pas une bien vive approbation de votre conduite, lui dis-je. Votre frère réserve son opinion, j'exprime la mienne, voilà tout. » « Je n'ai aucune crainte, me répondit-il. La sympathie de Nugent m'est assurée. Il me comprendra lorsqu'il viendra au sable. Mais en attendant, il ne faut pas que l'incident de tout à l'heure se renouvelle. » Il se pencha vers Jicks. L'enfant, pendant que nous causions, s'était étendu sur l'herbe et fredonnait un refrain de nourrice. Oscar la fit lever assez brusquement. Il était courroucé contre elle et contre lui-même. « Qu'allez-vous faire ? » lui dis-je. « Je m'en vais trouver M. Finch, » répondit-il, « pour le prier de défendre à Jicks l'entrée du jardin de Lucille. »« M. Finch, approuve-t-il votre silence ?» « Monsieur Finch, Madame Pratolungo, me laisse ma liberté d'action dans une affaire qui ne regarde que Lucille et moi. » Cette réponse coupait court à toute observation nouvelle. Je gardai donc le silence. Oscar emmena sa prisonnière vers la maison. Jicks trottait à ses côtés sans avoir conscience de la faute qu'elle venait de commettre et avait repris sa chanson interrompue. Je revins vers Lucille, complètement fixé sur la conduite à suivre dans l'avenir. Au cas où Oscar réussirait à cacher la vérité à sa fiancée, j'étais résolu à la lui apprendre moi-même avant leur mariage. « Eh quoi ? Ne m'étais-je pas engagé à garder le secret ? Eh bien, non, il n'y a pas de promesse qui me fasse tromper une personne que j'aime. Je méprise du fond de mon cœur de telles promesses. » Deux jours encore se passèrent. Puis un télégramme arriva au sable. Oscar accourut au presbytère pour nous faire part de la nouvelle. Nugent venait de débarquer à Liverpool. Oscar devait venir l'attendre à Dymchurch le lendemain.